Allons voir de l'autre côté de la Méditerranée. Petit podcast tunisien.
Bonjour, bonjour. On est avec Fausto, Radio MNE, aux Assises internationales du journalisme à Tunis. Et on est samedi 19 mars. Bonjour Fausto.
Bonjour. Aujourd'hui, on fête les accords d'Évian à l'Élysée. Voilà.
Ben, si tu peux te présenter et nous raconter comment tu as été amené à assister aux Assises et ce que tu as pensé un peu de cet atelier Initiation aux médias alternatifs qui a fait intervenir plusieurs intervenants de Haïti, de la Tunisie, de l'Italie, du Sénégal autour des radios communautaires, donc les principaux enjeux qui se posent, les modèles économiques, la dépendance au financement international, notamment à travers les billets de la coopération internationale. Qu'est-ce que tu en as pu penser?
Le gros schmilblick, c'est le flous, c'est le fric. C'est les euros, les dollars, les yens, etc. Et en Tunisie, on est tous avec le couteau sur la gorge. On a tout, on a absolument tout, sauf le fric. Et ceux qui ont le fric ne le donnent pas gratuitement. Le résultat, c'est que 11 ans après la fameuse révolution tunisienne, il y a plus de 50 000 Tunisiens qui sont des salariés d'organisations étrangères qui, en général, se présentent comme des ONG, mais qui, pour une grande partie, sont des OG, des organisations gouvernementales. Les fondations allemandes, par exemple, qui sont des fondations liées aux partis politiques, qui sont financées à 97% par l'État fédéral de Berlin.
Et donc qui protègent aussi les intérêts stratégiques et géostratégiques de leur propre pays. C'est le cas aussi du modèle des organisations internationales américaines, NDI, IRI...
Ou suédoise, ou hollandaise, ou japonaise, ou canadienne. Tu fais un projet, tu vas en parler avec des diplomates, et tu as une diplomate canadienne qui te dit avec un air béat, « Oh, mais ça, c'est communiste, ça !» Ce qui veut dire, votre projet, il aura pas de fric. Communiste, bon, genre un projet... commun de gens, de mettre des choses et des gens ensemble qui, en général, ne marchent pas ensemble, quoi. Le théâtre et l'édition et la danse et les pauvres, etc., quoi. Bon. Cette situation, elle a conduit à ce que l'écrivaine indienne Arundhati Roy appelle l'ONGisation de la résistance. Et on le voit partout, du Brésil à l'Indonésie, en passant par le Maroc, la Tunisie, le Liban et autres. À l'ambassade allemande à Beyrouth, il y a une série de petites Palestiniennes en hijab qui sont chargées de gérer le recrutement de jeunes réfugiés syriens dans les camps de réfugiés du Liban pour les former à la démocratie, pour qu'ils soient les cadres de la Syrie de demain envisagés à Berlin.
Pensez à Berlin.
Pensez à Berlin. Bon. Alors, il faut être conscient de ça, être capable de le dire, sans pour autant être pour l'Assad ou pour les frères musulmans ou autres. C'est une réalité qu'il faut constater. Les grandes organisations de pouvoir américaines, européennes, etc., ont eu à peu près toute la même politique dans les pays du Sud. D'un côté, avec le régime en place, on lui vend des armes, des lacrymos, tout ce dont il a besoin. De l'autre, on maintient des relations avec les oppositions, parce que le vent tourne, cet opposant-là, demain, il peut se retrouver au pouvoir. Il vaut mieux avoir aussi une porte d'accès à lui, quoi. Donc, on vend pour 1 milliard au régime, on donne 100 000 aux opposants. Oui. Voilà. Sous le régime de Ben Ali, j'avais des copains tunisiens à travers toute l'Europe. Et l'un d'eux, c'était un opposant qui avait été un peu maltraité dans les services de la Dakhilia du ministère de l'Intérieur, rue de Yougoslavie, qui poursuivait son petit bonhomme de chemin d'opposant. Et tous ses copains tunisiens lui ont dit un jour, mais enfin Ahmed, comment tu te débrouilles pour pas avoir touché un seul euro de subvention? Fais ta demande.
Bon. Et c'est comme ça qu'on pervertit un peu les opposants, et si je peux dire, les militants activistes, notamment ceux qui peuvent être à l'étranger, justement.
Après les printemps arabes, les 25-30 ans ont compris le système. Tu regardes les appels d'offres. Tu prends les mots-clés, ce qu'à Marseille on appelle les gros mots. Women empowerment, citizenship, young leadership.
Ce que Franck Lepage appelle la langue de bois, ou comment faire des ateliers de désintoxication de la langue de bois.
Voilà. Et tu crées une association où tu mets dans l'objet de ton association ces mots-clés-là. Et puis tu déposes ta demande de subvention. Résultat, quand l'association X, qui lutte contre la dette odieuse de la Tunisie, fait une réunion de militants, tous les participants doivent remplir une feuille de présence à l'entête de la Fondation social-démocrate allemande Friedrich Ebert, où ils mettent leur nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, adresse, fonction et tout. Et tout ça, ça part à Berlin et c'est stocké. Résultat, un jeune révolutionnaire du Sud qui travaille dans une fondation chrétienne sociale allemande à Tunis. Il se fait embaucher là, il découvre seulement au bout de 6 mois à quel parti est liée cette fondation. Mais il me dit, de toute façon je m'en foutais parce que mon chef c'était un communiste tunisien, il donnait de l'argent qu'à des groupes de gauche. Je dis alors tout va bien. Il me dit, il y a juste une chose bizarre. Un jour, je reçois un coup de fil, on me dit, oui, bonjour, nous sommes les organisateurs de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous voudriez venir témoigner sur la révolution tunisienne dans un meeting au stade machin de Marseille? Et le gars qui me raconte ça, je dis, comment ils ont eu ton numéro de téléphone? Je vois que ça tourne dans sa tête, il dit, ah, les Allemands. Il dit, ah, ah.
Ça a servi à quelque chose.
Ça a servi à quelque chose. Voilà. Bon. Les gens sont dans un tel état de précarité que le choix pour des garçons, des filles de 30, 32, 34, 35, le choix c'est entre travailler dans un call center à 250 euros par mois, ou essayer de d'entrer dans un de ces créneaux où tu peux arriver à des salaires de 8500 dinars par mois, c'est-à-dire pratiquement 3000 euros par mois.
Alors, moi, je vais vous raconter un peu, juste rapidement, mais super brièvement, un peu mon parcours et un peu, moi, personnellement, la désillusion que j'ai personnellement vécue, et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est vrai que, en tant que jeune Marocain, Maghrébin, on a eu la naïveté de penser à un certain âge, à 18, 19, 20 ans, que, voilà, l'associatif est éventuellement évoluer dans le milieu associatif, militant, activiste, pouvait être une alternative, ou en tout cas une piste qui, derrière, en tout cas en termes d'évolution de carrière, on a tous pensé à travailler dans des ONG. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans 2 organisations internationales en Tunisie. Et petit à petit, au bout de 5 ans, 6 ans, ayant travaillé avec des contrats, on va dire, assez précaires, des contrats tunisiens, même si je suis marocaine, parce que clairement, les contrats expatriés ne sont réservés qu'aux Blancs. Et après, au bout de 3 ans de travail, j'ai enfin pu accéder à avoir un statut de volontaire expat. Et on faisait quand même la distinction entre expat blanc et ce qu'on appelait les expats chocolat, qui étaient moins payés que les autres expats et qu'on faisait beaucoup plus travailler et qu'on n'arrivait pas à reconnaître à leur juste valeur. Et même ce discours et ce débat et cette lutte continuent encore, même au sein des ONG, de reconnaître les Algériens qui travaillent en Tunisie comme des expats parce qu'eux aussi viennent d'un autre pays.
C'est le modèle de l'ONU qui est pratiqué par tout le monde. Moi, j'ai eu le bonheur de travailler 3 mois pour l'ONU au Burundi, puis on m'a viré évidemment parce que j'avais pas le profil. Nous, les Blancs, on était à, que je me souvienne combien de milliers de dollars, parce que c'était tellement, je crois, 6 000 $ par mois, plus un per diem de 150 $ par jour. les Burundais qui faisaient le même boulot que nous, ils étaient à 1000 dollars.
Mais du coup, qu'est-ce que vous pourriez vous conseiller, en tout cas à cette jeunesse, ou même partager comme réflexion, pas nécessairement comme conseil, mais à cette jeunesse qui aujourd'hui se retrouve dans cette désillusion finalement entre travailler pour son propre état avec très peu d'opportunités, on va dire, d'emploi qui sont disponibles, et travailler dans ce milieu et dans ce système de la coopération d'aide internationale et de la coopération internationale qui peut paraître très attractif au début pour des jeunes, en tout cas à la recherche de perspectives et d'opportunités professionnelles. Quelle est la juste voie, ou en tout cas le juste milieu ?
Moi, ma vision idyllique, utopique, c'est tu vis à Tunis, tu as un projet. Ta famille est originaire de Ksar Helal. Dans le quartier où est ta famille, tout le monde te connaît. Tu retournes à tes racines, tu fais la djemma avec tous les gens du quartier ou du village qui te connaissent, et tu leur dis, voilà mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes tatas, etc. Voilà le projet que j'ai, voilà ce que je veux faire, voilà ce que ça va rapporter, voilà de quoi j'ai besoin. Les tantes vont commencer à dire, moi je peux vendre 2 bracelets. Un oncle, il va dire, moi, mes 100 oliviers, je peux te donner le produit de la prochaine récolte. Bon, tout ça, c'est noté. Tu ramasses 5000 dinars. Un an plus tard, tu reviens, tu fais la djemma, tu fais ton rapport financier. On a gagné, on a perdu, etc. Bon, l'huile d'olive de l'oncle, je me démerde pour l'année suivante la faire vendre dans des boutiques un peu chic à la Marsague, à Marthe, ou pourquoi pas à Berlin ou à Neuilly, quoi. Le coup de main, ce que les Haïtiens appellent le kumbit, les Sénégalais la tontine, les Cambodgiens le roui, les Comoriens le mranda.
Et au Maroc, on l'appelle Darat, il y a aussi la Touiza, d'autres pratiques justement solidaires de financement participatif.
Voilà, voilà. Pour éviter les arnaques du microcrédit. Parce que le microcrédit au Maroc, alors là, ils ont volé, ruiné des centaines, surtout de femmes paysannes, qui ont même essayé de faire des procès, mais qui sont arrivées à rien, quoi. Bon. C'est donc de s'appuyer sur ses racines. Si ton projet offre un intérêt social quelconque, tu dois t'adresser aux sujets sociaux que ce projet devrait intéresser, qui vont y voir leur intérêt et qui donc vont donner un coup de pouce en échange d'avoir quelque chose en retour. Évidemment, si tu leur donnes jamais rien en retour, ça va peut-être marcher une fois, mais pas deux fois.
En tout cas, c'est une perspective intéressante. Après, c'est vrai que tout le monde n'y réfléchit pas nécessairement. Les gens, en tout cas les jeunes, sont réticents à se lancer sur des projets. Alors, on assiste à un véritable élan du social business, de la start-up nation. Tout le monde veut monter des start-up et tout le monde veut devenir Bill Gates et tout le monde veut devenir Mark Zuckerberg. Alors, est-ce que le modèle de la Silicon Valley, qui ne fonctionne pas nécessairement en Europe ou même en France, comment ce modèle peut-il être placardé, en tout cas dans les pays du Maghreb et dans les pays du Sud de façon générale, quoi, et quelle perspective ça permet aux jeunes?
Moi, je crois que plutôt le modèle applicable, c'est ce modèle de la traditionnelle qui existe un peu partout, qui dans certains endroits a pris des formes modernes, quoi, la tontine, ce qui existe chez les berbères marocains, mais aussi chez les berbères tunisiens. Même chez les Arabes. On vit dans un pays où jamais personne ne se pose la question qui réalise le miracle qui fait que tout le monde mange tous les jours à sa faim. C'est qui les artisans du miracle? C'est les madames qui disent rien. C'est les madames avec leur foulard. Elles se démerdent pour qu'il y ait toujours sur la table à manger. Comment elles font?
C'est un mystère.
Et ça, on le dit toujours, même au Maroc, on le dit, avec tous les problèmes qu'il y a, on mange toujours quand même à sa faim, que ce soit au Maroc, en Algérie.
70% de l'économie tunisienne est une économie immergée, non déclarée, non taxée. Bon, comment est-ce qu'elles font? Si on mettait 2 grands-mères à la tête du ministère de l'économie et des finances, tous les problèmes seraient réglés en une demi-heure. elles enverraient chier la Banque mondiale, le FMI et toute la SMALA, quoi. Et les banques saoudiennes, enfin, et j'en passe, quoi. Les ressources de solidarité qu'ont les femmes de cette société, pourquoi ne pas y recourir pour des projets qui se veulent modernes, ouverts sur le monde, etc., quoi. D'autant plus que la femme tunisienne la plus arriérée, apparemment, entre guillemets, si tu vas dans son salon, tu regardes l'étagère au-dessus de la télé, tu verras qu'il y a un dictionnaire anglais-arabe d'Oxford. Tu lui demandes, c'est quoi ce dictionnaire ? Elle dit, c'est une nièce qui étudie à Londres. Donc, tous les villages tunisiens, comme tous les villages marocains, sont des villages planétaires qui ont des sections à Rotterdam, à Stockholm, à San Francisco. Quand il y a eu la révolte de Rdeyef, avant la révolution tunisienne, à Saint-Nazaire, il y a eu des manifestations de soutien à Rdeyef, où ils étaient 300-400, uniquement des originaires de Rdeyef et du coin, quoi. Tous ces réseaux-là, ils servent à construire des mosquées. Mais ils peuvent servir aussi à faire autre chose. Les gens de la Datré de Kébélie, qui ont repris les 8000 hectares de...
De Gemla.
De Gemla, oui. Qui ont repris les dattiers, etc. Ça fait vivre maintenant pratiquement les 6000 habitants. C'est vrai, ils ont construit une mosquée, mais ils ont fait aussi un dispensaire, une route.
Ils ont équipé le village en infrastructure. Et puis voilà. C'était une association. C'était quand même une initiative qui proposait un modèle d'autogestion. Et je pense que l'avenir est en effet de l'autogestion, parce que ça permet justement de revenir à ses racines, retourner à sa communauté, et puis essayer de proposer de nouveaux schémas, de nouveaux modèles, mais aussi un véritable changement de paradigme. Parce que clairement, c'est pas le changement et le développement et la révolution et la transition vers de nouveaux modèles démocratiques ne se fera pas à travers la coopération internationale.
Alors justement, il y a en Tunisie aujourd'hui 1 million d'hectares de terres non cultivées ou mal cultivées. Ça, c'est le résultat du socialisme bureaucratique des années 60, quand on a nationalisé en 64 les terres agricoles des Français, des Italiens, des Maltais, des Juifs, et gestion bureaucratique, tu traverses les campagnes tunisiennes, tout à coup tu vois, comme d'ailleurs en Algérie dans les années 70, aujourd'hui je ne sais pas comment c'est, tout à coup tu vois des champs de la terre qui a l'air grasse, etc., où il n'y a que des pâquerettes qui poussent dessus parce qu'elles ne sont pas cultivées. Il y a des vignes qui sont abandonnées. Alors les gens te disent, oui c'est parce que les islamistes ont... Mais... C'est des bobards. L'islam s'est toujours arrangé avec la culture de la vigne. En Iran, c'était les Arméniens qui cultivaient la vigne et produisaient le vin que les bons musulmans en buvaient après. Ici, c'était les Italiens, les Juifs. On peut très bien être un pays qui se veut musulman, cultiver de la vigne et produire du vin, quoi. Pour pas parler de l'olive, du blé, de la tomate, etc., quoi. Donc aujourd'hui, la mafia italienne achète l'huile d'olive tunisienne, la mélange avec de l'huile d'olive grecque et met 12% d'huile d'olive italienne et la vend à New York à des prix astronomiques. Les Américains ont inventé le vaporisateur d'huile d'olive tellement elle est chère. Alors, c'est vrai que les 20-25 ans d'aujourd'hui, vu le cursus scolaire qu'ils ont suivi, en gros, plus ou moins, ils pensent que les spaghettis poussent dans les arbres. Quand je parle avec des jeunes dans la rue à Tunis qui vendent des cartes de Tunisie Télécom, je leur demande combien ils gagnent, ils me disent 30 dinars, 10 euros par jour. Je leur dis, venez faire la récolte des olives dans le Cap Bon, vous gagnez 50 dinars par jour. Ils me disent, ah oui, 50 dinars. Ah oui, mais il y a un problème. On ne sait pas ramasser les olives. Je leur dis, écoutez, ça prend en maximum une heure.
Une journée.
Ah oui, vraiment, c'est si facile que ça. Oui, oui, il suffit de regarder les vieilles, comment elles font, et tu fais la même chose. Ah, mais ça n'a jamais pénétré leur cerveau. une telle perspective.
On a perdu l'art de travailler la terre et puis ce retour, en tout cas surtout chez la nouvelle génération. Quoi. L'agriculture n'est plus un métier et un secteur qui semble attractif pour les jeunes.
Oui. La cueillette des olives, pour la taille des oliviers. Tu cherches pour la cueillette, tu dois cueillir en décembre. Dans les meilleurs des cas, tu arrives à trouver des gens en février. Pour les travaux de maçonnerie, le vieil artisan, il recrute un jeune pour transporter le ciment dans la brouette. Il lui propose 50 dinars par jour. Le jeune lui dit non, 100 dinars. Il dit bon, d'accord, 100 dinars. Il travaille un jour. Le jeune, le soir, lui dit « Donne-moi les 100 dinars ». Il le paye. Le propriétaire de la maison a payé le vieux a payé le jeune. Le lendemain, le jeune n'est pas au boulot. Il est au bistrot. Il a 100 dinars. Donc c'est bon. Donc, tant qu'il n'a pas fini ses 100 dinars, il ne va plus retravailler.
En tout cas, merci beaucoup Fausto. C'était une très belle discussion, conversation qu'on continuera certainement par la suite. Merci.
Dans les vignobles alsaciens.
Allez, à très vite.
Allons voir de l'autre côté de la Méditerranée. Petit podcast tunisien.